qui aime se retrouver à la maison? Ah, on est beaucoup. Eh, on se ressemble pas mal, hein? Moi aussi, j'aime être à la maison. J'aime être dans la présence de Dieu. À chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, je me sens chez moi. Je ne peux pas courir la terre, je peux aller tout au bout de la terre. Dès que je ressens la présence de Dieu, je me sens chez moi. Est-ce que j'ose te demander de mettre un tout petit peu, juste un peu plus fort, comme ça je ne force pas dans ma voix. Vous avez remarqué que ma voix est cassée. À chaque fois que ma voix est cassée, c'est que j'ai trop crié. À chaque fois, je crie pour le Seigneur et j'essaie de me calmer là. Parce que sinon, je suis tellement honoré, je suis tellement enthousiaste de pouvoir prendre la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Allons directement dans la parole de Dieu. Je vais lire dans Genèse 8 à partir du verset 15. Vous pouvez suivre avec moi? Genèse 8 à partir du verset 15, je vais lire. Dès que vous trouviez, je vais y aller. Merci Seigneur. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils et sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et c'est là que j'aimerais que vous reteniez la phrase suivante. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre. » L'Éternel sentit une odeur agréable. Et il dit, « Je ne maudirai plus la terre. » À cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que nous pouvons dire amen à la parole de Dieu? Amen, amen, amen. L'Éternel sentit une odeur agréable. J'aimerais que tu te tournes vers quelqu'un et tu dis, ça va être une question d'odeur ce matin. Aide-moi un tout petit peu. Ça va sentir ce matin. Ça va être une question d'odeur. L'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a envie d'honorer notre Dieu jusqu'à ce qu'il sente quelque chose? Quelque chose sur la terre qui est senti dans le ciel? Quelque chose qui vient de ton cœur, qui vient de ta vie? Une odeur de brûlé, une odeur qui invite le cœur de Dieu à changer d'avis. Est-ce que quelqu'un est dans ce lieu ce matin prêt à chercher le Seigneur? Prêt à chercher sa vie jusqu'à ce que le Seigneur se prononce? Il ferme une porte sur ton passé et il ouvre une porte sur ton avenir. Est-ce que quelqu'un ce matin désire quelque chose de la part du Seigneur? Parce que Dieu dit amen, amen. Applaudissons le Seigneur alors très très fort. Il va le faire. Nous prions, Père, merci maintenant. Merci parce que tu es le Dieu qui voit. Tu es le Dieu, l'Éternel, qui est au milieu de nous. Tu as entendu, Seigneur, tu as reçu nos louanges. Et tu es au milieu de nous pour recevoir ce que nos cœurs ont à donner. Seigneur, ce matin, que tu puisses recevoir de nos cœurs, de nos vies, une odeur agréable. Que l'Église puisse sentir bon. Que l'Église puisse être une offrande, un sacrifice devant toi. Que nos vies, que tu puisses accepter nos vies. Seigneur, maintenant, brise toute chaîne en ce lieu. Brise tout lien qui nous empêche de nous donner complètement à toi. Seigneur, que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Que ta parole puisse descendre dans nos vies. Seigneur, sois notre réalité ce matin. Amen. Amen, amen. Le Père cherche des adorateurs. Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs. Des adorateurs en esprit, en vérité, mais le Père les cherche. Il y a quelque chose en vous, quelque chose dans votre vie que Dieu cherche, que Dieu désire tellement. Quand cette chose arrive jusqu'en Dieu, ça lui procure tellement de joie, ça lui procure tellement, ça lui fait quelque chose qu'il le cherche partout. Il le cherche à l'église, il le cherche, il parcourt la terre. Ses yeux regardent qui veut honorer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui veut honorer Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon église, dans mon groupe de louanges qui veut honorer Dieu? Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose pour notre Seigneur? Ce que nous devons comprendre quand nous lisons un texte comme cela, c'est qu'il y a une intention de Dieu dedans. Il y a quelque chose que Dieu veut dire, veut montrer à quelqu'un pour qu'on puisse être en sûreté, pour qu'on puisse avoir l'assurance, pour qu'on sache exactement ce que Dieu attend de nous. La première, vous devez comprendre que Dieu veut que vous soyez en sécurité. Mais en fait, je me suis lancé trop tôt, mais je vais d'abord situer l'histoire. C'est une histoire que nous connaissons très, très, très bien. Nous l'apprenons, j'allais dire à l'école du dimanche, mais je me trompe. Comment on dit ? Aux ateliers de la Bible. Nous l'apprenons aux ateliers de la Bible. Alors, tout le monde connaît cette histoire, mais je suis obligé quand même de vous donner une sorte de bribe. Un jour, Dieu dit à Noé qu'il allait pleuvoir. Il lui dit de construire une arche. Vous devez comprendre qu'il n'y avait jamais plu auparavant. Noé ne savait pas exactement ce que c'était la pluie. Il a construit donc une chose qu'il ne comprend pas. Il n'a jamais vu la pluie. On lui dit de construire une arche. Si je vous dis construisez une voiture aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Marie-Jo, une voiture, c'est une voiture. Mais à l'époque, l'arche n'était pas connue. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait même pas ce que c'était la pluie. Quand la pluie est descendue, c'était une sorte de nouveauté pour tout le monde. On devait découvrir ce que c'était. Mais Dieu dit à Noé, construis une arche. Noé construit l'arche et ça semble vraiment quelque chose de bizarre pour tout le monde. Imaginez quelqu'un va construire une arche à la place du marché. Ben oui, ça fait bizarre. C'était bizarre pour ses voisins, c'était bizarre pour ses contemporains. Dieu dit, je vais prendre les justes et les mettre à l'intérieur de l'arche. Parce que l'homme est devenu si méchant et sa méchanceté est destructrice, si accablante que je vais recommencer tout le processus avec les êtres humains. Je veux que toi, tes fils, Sem, Cham, Japhet, et vos femmes, vous rentrez dans l'arche. 8 personnes entrent dans l'arche, fut enfermées avec tous les animaux qui y sont venus deux par deux. Il commençait alors à prévoir, à pleuvoir. La pluie commençait à arriver. Il y a de l'eau qui monte depuis le bas. Il y a de l'eau qui descend depuis en haut. Goutte par goutte, ça arrive d'en haut, ça arrive d'en bas. Et tout d'un coup, l'arche commence à flotter. L'arche commence à être emportée par l'eau, à être soulevée par l'eau, à être soutenue par l'eau. 40 jours, 40 nuits, l'arche est emportée. Et c'est comme si l'arche savait où est-ce qu'il fallait aller. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que l'arche se retrouve dans... après 40 jours et 40 nuits dans un, au sommet d'une montagne. Quand les eaux se sont retirées, l'arche se retrouve au sommet de la montagne. Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu sait comment conduire votre vie pour vous amener quelque part là où il veut que vous vous arrêtiez. Noé a trouvé un endroit de repos. Noé a trouvé un endroit de sécurité. Normalement, on ne va pas en bateau en montagne, on est d'accord bien. C'est quand même impensable. Moi, quand je réfléchis comment Dieu fait, je dis, c'est quand même impressionnant. C'est en bateau qu'il amène Noah à l'endroit où il veut. Dieu veut amener votre vie. Dieu veut prendre en main votre vie et l'amener quelque part. Dieu va vous donner une flottabilité aussi léger que l'arche. Dieu va vous amener à un endroit de sécurité, un endroit où Dieu a choisi d'avance. 40 jours, 40 nuits, ça peut sembler bizarre que ça va dans tous les sens, que c'est la tempête et qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais Dieu sait qu'il veut vous amener à un endroit précis, au sommet de la montagne. Noé arrive à son endroit de repos. Et notre texte, en fait, commence là. Et il y a tellement de choses que Dieu veut dire dans ce texte. Et si vous gardez votre prérequis, tout ce que vous avez déjà appris par rapport à ce texte, vous risquez de louper les pépites que Dieu met dedans. Essayez juste d'entrer dans le raisonnement. Essayez de suivre dans cette orientation parce que Dieu a quelque chose à nous dire. La première, Dieu a un endroit de sûreté pour ses enfants. Dieu dit, il sera comme au temps de Noé. Mais Dieu a un endroit de sécurité pour nous. Dieu a un endroit de sécurité pour son Église. Dieu a un endroit de sécurité pour vos enfants. Dieu a un endroit sécurisé. Il a tout entre ses mains. La deuxième chose, Dieu ferme des portes et Dieu ouvre des portes. Ils sont entrés dans l'arche, Dieu a fermé les portes. Nous devrions louer le Seigneur pour les portes fermées. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu quand Dieu ferme les portes. Parce que quand Dieu nous ferme les portes, c'est pour nous amener quelque part. Il y a un projet de Dieu derrière. Dieu est le Dieu qui ouvre des portes. Quand Dieu ouvre les portes, nous devrons entrer. Nous ne devrons pas attendre pour entrer. Nous ne devrons pas nous poser tellement de questions avant d'entrer. Parce que nous, ce n'est pas quelque chose de quand on parle de ces choses-là, on pense que quand une porte est ouverte, on pense que personne ne pourra pas le fermer et ça restera toujours ouvert. Mais quand Dieu fait quelque chose avec nos vies, quand Dieu vous appelle quelque part, quand Dieu vous utilise quelque part, c'est le moment d'agir. C'est un timing de Dieu. Il ouvre la porte et c'est à vous d'agir. Si vous n'entrez pas, si vous ne faites pas ce que Dieu doit faire à cet instant-là, vous risquez de perdre l'occasion. Et la porte peut être refermée. Donc il faut faire aujourd'hui ce que Dieu nous demande de faire. La troisième chose, l'eau est souvent symbole de nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ dans la vie. Nouveau départ pour l'Église. Nouveau départ. L'eau est souvent synonyme de nouveau départ, comme le baptême. Comme le baptême. En fait, dans ce texte, c'est comme si Noé, avec toute sa famille, a été baptisé dans l'eau. C'est vraiment quelque chose qui est... Il y a Dieu commence quelque chose de nouveau. Et l'arche a trouvé sa flottabilité. C'est un nouveau départ. Il l'amène au sommet de la montagne. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit saisir à chaque fois. C'est à nous d'entrer dans ce que Dieu est en train de faire. Quatrième chose, Noé construit l'arche par la foi pour sauver sa maison. En général, Ouais, je pense que c'est pas souvent vraiment le cas chez nous. Mais en général, les gens ne commencent pas le ministère à la maison. L'intention de Noé, c'est de sauver sa famille. Sauver sa famille. C'est-à-dire que c'est à lui de prendre en charge sa famille. Il fallait que sa famille voie exactement qui il est. Parce que si sa famille n'a pas confiance en lui, il ne pouvait pas les sauver. Quand nous nous présentons comme serviteurs de Dieu, quand nous nous présentons comme enfants de Dieu, comme des chrétiens, il faut qu'il y ait cette substance que toute ta famille sait en toi. Si Flo ne sait pas qui je suis et que je vais aller louer le Seigneur partout et que je vais avec ma guitare, avec ma Bible, je me présente comme quelqu'un qui loue le Seigneur. Si Flo ne voit pas cela à l'intérieur de ma maison, ça ne sert à rien. J'arriverai pas à sauver ma famille. En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est pas de directement sauver le monde entier, sauver nos voisins. D'abord, sauvons notre famille. D'abord, sauvons ceux qui sont autour de nous. Et c'est la même chose pour l'Église. Ça commence entre toi et moi. Ça commence à notre cheminement de tous les jours. Sauvons notre famille. Nous devons avoir confiance. C'est la cinquième chose. Ouais, j'ai beaucoup à dire. Nous devrons avoir confiance à la capacité de Dieu de créer un environnement pour nous. Dieu peut créer un environnement pour nous. Rien que pour toi. Rien que pour ta famille. Rendez-vous à la montagne. Rien que pour toi, en bateau. Rien que pour toi. Dieu est capable de créer un environnement sécurisé. Cet environnement sécurisé est figurative de l'arche. Et l'arche est figurative de l'Église. Quand on parle de l'arche, on doit imaginer ce que c'est. Imaginez 40 jours, 40 nuits, il y a tous les animaux, un seul fenêtre, il n'y a pas de douche, 40 jours, 40 nuits, en train de flotter ensemble. Nous flottons tous ensemble. Vous savez, quand l'Église est figurative de l'arche, dans l'Église, vous pouvez être déçu de quelqu'un parce que dans l'Église, ça va être une question d'odeur. Dans l'Église, chaque personne qui est dans l'Église apporte quelque chose. Et chaque personne apporte son propre odeur. Rappelle à quelqu'un, ça va être une question d'odeur ce matin. Nous apportons tous une certaine puanteur, pour ne pas dire... une certaine puanteur, pour ne pas dire une puanteur certaine. Oh, je pouvais ne pas le faire, mais je le fais. La personne que vous voyez avec nous, qui marche, qui persévérons ensemble, chaque personne que Dieu place sur notre route, chaque personne qui est avec nous dans l'Église, nous portons tous cette odeur qui est dans l'arche. Et c'est pas quelque chose de génial, parce que Dieu aimerait vous dire que l'arche n'est pas climatisée, que l'arche n'est pas quelque chose qui est justement comme ça, tout est bien, tout est beau, tout est comme ça déjà prêt, tout est parfait, et qu'il faut juste entrer dans l'arche et qu'on est chrétien et que voilà. Dieu aimerait nous dire que chaque personne qui est dans sa maison porte une odeur. Et avant de quitter l'Église, avant d'aller chercher ailleurs, avant de voir ce qui se passe ailleurs, pensez que nous portons tous. Avant de juger quelqu'un, avant d'imaginer, maintenant vous êtes en train de tourner dans votre pensée, mais avant d'imaginer quelqu'un, nous portons tous. Et pour ne pas juger, sachez que moi aussi, j'étais dans l'arche, là où il y a eu les animaux. Et moi aussi, je n'ai pas pris de douche. Et moi aussi, j'ai vécu comme ça pendant 40 jours, 40 nuits. Quand vous serez confronté à quelqu'un de votre église qui dit, et là, ça vous fait... Rappelez-vous la situation. Parce que moi, je me rappelle souvent. Rappelez-vous la situation. Dieu a ses manières de faire. On peut connaître Dieu par sa parole. On peut connaître Dieu par ses actes. Dieu par ses œuvres. On peut connaître Dieu à travers la parole parce que nous l'apprenons, nous l'étudions et nous cherchons Dieu. Mais on peut aussi connaître Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait sur la terre, tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et on peut le reconnaître par ses œuvres. Dieu a des manières de faire. Il y a des choses que Dieu a fait avant qui ne changera jamais. Vous allez le retrouver tout au long de la Bible. Il y a des choses, des manières de faire de Dieu. À part le fait que nous connaissons sa parole, des manières de faire de Dieu, nous devons l'apprendre parce que ça nous permet de comprendre ce que Dieu fait dans l'arche, ce que Dieu fait dans notre vie. L'arche est comme une sorte de cocon. L'arche, c'est un lieu fermé, un lieu protégé, un lieu comme façonné de l'extérieur, façonné à l'intérieur. Mais Dieu a mis un insecte à l'intérieur, comme un cocon. Et l'insecte est placé à l'intérieur. Jusqu'à ce que tout ce que Dieu va faire, jusqu'à ce que le temps de Dieu s'accomplisse. Dieu place l'Église dans un cocon. Dieu place ma vie dans un cocon. C'est une manière de faire de Dieu. C'est comme ça qu'il procède. Quand je regarde en arrière, je regarde ma vie, je regarde comment est-ce qu'il m'a construit, je regarde comment est-ce qu'il m'a conduit. J'ai vécu tellement de choses qui me montrent que Dieu m'a placé dans un cocon. Quand on est dans un cocon, on parle de cocon à l'aise, mais en fait c'est un lieu étroit. C'est un lieu où tu es serré, c'est un lieu où tu dois attendre, c'est un lieu où tout va se transformer. Tu rentres différent dans le cocon et tu en sors différemment. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu va vous placer dans un cocon et vous entrez dans ce cocon différent de comment est-ce que vous en sortez. Alors que vous êtes dans le cocon, Dieu travaille. Dieu travaille. C'est souvent difficile d'être dans ce lieu-là. C'est vraiment très, très difficile. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression que rien ne se passe. Alors que toi, tu es placé, tu es contrôlé, tu es en train de vivre quelque chose de... Tu es coincé, quoi. Tu es coincé dans l'église, tu es coincé. En fait, Dieu est en train de construire quelque chose. Dieu est en train de donner une nouvelle identité. Dieu est en train de construire une sorte de plateforme pour que tu puisses agir pour l'avenir. L'arche est comme un cocon. Il place Noé et toute sa famille. Il a vécu un monde en vent. Il le met à l'intérieur. Il le prépare pour un autre monde parce que Dieu a un nouveau plan. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toute sa famille. L'arche est comme un cocon, mais ce n'est pas la première. Ce n'est pas dans la manière de faire de Dieu, ce n'est pas la première fois qu'il fait comme ça. En fait, à un moment donné, Dieu... Oh, merci. La femme est la première arche. Dieu s'est dit, il faut que je sorte de l'éternité. Je vais me construire une arche. Je vais entrer dedans. Je vais me débarrasser de tout, ma gloire, tout le reste. Et je viens et je vais entrer dans la femme. Je vais entrer dans la femme et entrer dans les conditions humaines. Je vais entrer dans un endroit que j'ai fait, mais que je vais changer à partir du fait que j'entre dans la femme. La première arche que Dieu a utilisée, c'est une femme. Vous savez que la parole a été faite chair. La parole est entrée dans l'utérus de la femme et s'est faite chair. Et des gens l'ont contemplé. Ils ont vu sa gloire. Il est venu à l'intérieur de la femme. Il a quitté l'éternité, arrivé sur la terre comme l'arche. Arrivé à l'endroit, il est devenu la parole. Qui a besoin de la parole de Dieu aujourd'hui? Qui a besoin à ce qu'on entre dans un nouveau plan, dans ce que le Seigneur a prévu pour nous? C'est une manière de faire de Dieu. L'utérus est une idée de Dieu. C'est comme ça que Dieu voulait se révéler à l'humanité. Lorsque Dieu prépare à en mettre en gestation quoi que ce soit, il le place à l'intérieur dans un lieu sécurisé. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, c'est comme ça. À chaque fois. Vous savez, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous ressentons dans l'Église, c'est comme si on est dans l'arche. C'est comme si on est dans un cocon. C'est comme si on est dans l'utérus de la femme. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose que Dieu prépare. Il y a quelque chose que Dieu seul va sortir de là. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous expérimentons. Et si vous servez le Seigneur, avant que vous puissiez faire quoi que ce soit, Dieu vous mettra dans cet endroit-là. Et il vous préparera. Il vous mettra dans cet endroit pour vous protéger. Parce qu'au début, la vie est fragile. La vie est fragile. C'est ce qui se passe chez nous. La présence de Dieu qu'on vit ici est fragile. Il faut qu'on soit tous conscients que c'est hyper fragile. Mais Dieu vous met dans un cocon pour que ce soit protégé, en vue d'eux. Pour que nous puissions aller un jour dire au monde que Dieu est. Pour que nous portons tout ce que Dieu a préparé d'avance avec la puissance de Dieu et aller au moment que Dieu veut pour nous. Quand nous sommes placés à cet endroit-là, c'est vraiment quelque chose de très difficile parce que ça peut être vraiment comme une sorte de prison. Ça peut être comme un endroit qui t'es pas à l'aise dedans. Il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas bien. Quelque chose de restrictif, quelque chose d'inconfortable, quelque chose de difficile à vivre, comme dans la vie. Mais en fait, quand tu vis des situations comme ça dans ta vie, si c'est la manière de faire de Dieu, de nous faire passer par là, ça veut dire que vos prisons peuvent être la promesse de Dieu. Ça veut dire que les choses difficiles par lesquelles vous êtes passés peuvent contenir ce que c'est la promesse de Dieu. Toutes ces choses très difficiles qu'on vit dans notre vie. Moi, quand je regarde dans ma vie, ça me bouleverse parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vécues, mais à chaque fois, je m'en sors. À chaque fois, c'est comme si Dieu me fait sortir de l'arche. À chaque fois, c'est comme si Dieu me fait entrer dans un niveau différent. À chaque fois, Dieu me sort de là pour me faire entrer quelque part. Mais c'était tellement difficile à chaque fois. Moi, j'étais un enfant un peu perturbé parce que, comme enfant battu. Et vivant des choses comme ça, aujourd'hui, je peux expliquer en disant, waouh, c'est la manière de Dieu. Mais à un certain âge, j'ai dû aussi sortir de ma famille et aller vivre ailleurs. Et c'était un endroit protégé. Les parents qui m'ont élevé dans cet endroit-là, ils étaient médecins. Et ils sont, c'est vraiment des gens instruits. C'est eux qui m'ont appris à vivre, les savoir-vivre. Et c'est là que j'ai été formé dans mon être intérieur. C'est là que ma personne a été formée. C'est pas pour autant que ce détachement de ma famille ne m'a pas fait mal, parce qu'on ne devient pas artiste pour rien. On ne devient pas artiste pour rien. C'est notre âme qui est meurtrie. C'est pour ça qu'on devient artiste. On ne le dit pas assez. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, mais Dieu aussi. Dieu fait que notre âme soit comme en prison, soit comme dans un cocon, soit comme dans l'utérus. Et il nous sort de là. Et il en sort quelqu'un. Quand Dieu vous place dans un endroit comme ça, c'est un endroit où tout est difficile à vivre. Tout, mais vraiment tout est difficile à vivre. Mais c'est là que votre leadership change. C'est là que votre cœur change. C'est là que votre manière de comprendre les choses change. C'est là que Dieu change toute votre personne. Un jour, j'arrive ici dans le groupe de louanges. Et dans ce groupe de louanges, c'était déjà formé. Il y avait beaucoup de gens dedans. Et moi, j'arrive en étant malgache, déjà différent. Mais moi, j'ai gagné un concours à Madagascar. Et j'étais déjà artiste. Mais quand je suis arrivé ici, Dieu me dit, entre par la petite porte, va par derrière, ne dis rien, essaie de suivre et apprends quelque chose. Et pendant 3 ans, je faisais comme ça, sans rien dire. Sans rien dire. 3 ans, hein, 3 ans. Elle peut témoigner, Tania, elle m'a vu. Elle m'a vu arriver. J'ai rien dit ici. Et j'ai appris ce que c'est. Quand vous êtes placé dans un cocon, quand vous êtes placé dans un endroit, même si vous pensez que vous êtes le meilleur artiste qu'il y a, même si vous pensez que tout ce que vous avez, Dieu l'a préparé, même si vous avez une destinée tellement forte, l'endroit où Dieu vous place, c'est pour vous changer, c'est pour vous construire, c'est pour que vous soyez prêt à un moment donné. Et Dieu dit, sors de là. Viens, sors de là. Dieu vous met dans un endroit comme ça pour que la tempête passe. Dieu vous met dans un endroit comme ça parce qu'il a un projet et pour que la tempête passe, s'apaise dehors. Il y a toutes sortes d'arches, il y a toutes sortes de cocons, il y a toutes sortes d'utérus. Par exemple, la femme, on le savait, la femme était la première, mais pas la seule. L'arche de Noé était construite et la suivante, mais pas la seule. L'Égypte, par exemple, était une utérus pour le peuple d'Israël. Ils arrivent comme une famille, ils entrent dans cet endroit et ils ressortent comme une nation. Ils arrivent comme une famille. Ils sont placés dans cet endroit. C'est 400 ans d'esclavage quand même, c'est 400 ans de choses d'affliction. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'aimerais parler à quelqu'un qui se trouve dans l'affliction. J'aimerais parler à quelqu'un qui se bat dans sa situation, que quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un qui est dans l'affliction. Et que Dieu veut encourager ce matin. Il disait par rapport aux Israélites qui étaient en Égypte, plus on les accablait, plus ils se multipliaient. J'aimerais parler à quelqu'un que c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Là où tu penses être accablé, là où tu es placé dans cet endroit, plus on va t'accabler, plus tu vas te multiplier. Dieu a déclaré à Noé et à sa famille pendant qu'ils sont encore dans l'arche. La situation est comme ça. Ils arrivent en haut et la porte s'ouvre. Et pendant qu'ils sont encore dans l'arche, Dieu leur parle. Je ne sais pas, moi c'est quand je suis dans la difficulté que j'ai besoin de la voix de Dieu qui me parle. J'apprends avec la voix de Dieu tous les jours. Je cherche sa voix, je guette sa voix, j'essaie de comprendre la parole de Dieu. Je cherche partout. Mais quand je suis dans la difficulté, il y a comme quelque chose de disposition particulière. Je cherche la voix de Dieu. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Est-ce que Dieu vous a déjà parlé alors que vous êtes dans cet endroit difficile? Dans Jérémie, au verset 1, Jérémie 1, à partir du verset 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais parler, car je suis un enfant. Quand vous êtes dans l'arche, c'est un endroit de stationnement, mais tout le monde vous aime quand vous sortez. J'ai fini mes études. J'ai réussi dans la vie. Je suis devenu quelqu'un. Je sors de l'arche. Je sors de tout ce qui a été préparé d'avance, que maintenant, c'est à mon tour de faire. Le Seigneur a dit, vous avez attendu tellement longtemps. Je vous sors de là. Le Seigneur vous dit, j'ai fini le processus sur ta vie. Je te sors de là. J'ai fini de travailler, j'ai fini de préparer ce qui t'attend après. Je te sors de là. J'ai fini de préparer ce qui sera ta vie, là où tu vas démontrer la puissance de Dieu. Je te sors de là. Pendant que tu étais à l'intérieur, je te connaissais déjà. J'avais un plan pour toi. Pendant que tu étais, c'était difficile pour toi, je te connaissais. J'avais un plan pour toi. Maintenant, je te dis, sors de là. Sortir de l'arche n'est pas forcément quelque chose, quand on imagine comme ça, c'est juste, youpi, on est arrivé. Mais en fait, sortir de l'arche, c'est comme sortir de l'utérus. C'est comme un bébé qui sort du ventre de sa maman. Le monde qui l'attend, il ne le sait pas, mais toute sa personne est secouée quand il sort. Les os craquent. C'est là qu'il crie, c'est là qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes de ce qu'il a vécu avant, parce qu'avant, il était tranquille. Et là, il sort. Il sort de là, il peut être vraiment traumatisé. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui arrivent alors qu'il sort de l'arche. Quand on sort de quelque chose de difficile, quelque chose qui a été vraiment traumatisant pour nous, d'arriver dans le monde, ce n'est pas facile. C'est dans l'Église que nous voyons ça. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Mais la naissance signifie que tout doit changer. La naissance signifie que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. La naissance signifie qu'il y avait déjà une parole qui t'a dit « Sors de là, et c'est ton tour maintenant de vivre. » On peut construire dans la vie. On peut construire de différentes manières dans la vie. J'aimerais vous parler d'un petit-fils de Noé. un petit-fils de Noé qui s'appelle Nimrod. En Neuchâtelois, c'est Nimrod. Oh, c'est pas drôle. Nimrod, Noé a un petit-fils par Cush, il s'appelle Nimrod. Nimrod a construit un grand royaume et l'un de ceux-là deviendra Ninive. Dans la grande ville de Ninive est fondée par Nimrod. Nimrod construit un tour appelé la tour de Babel. Plus tard, à cet endroit, fut construit Babylone. Flavius Joseph, un historien, dit de Nimrod. Nimrod n'a pas seulement construit la tour par défi à Dieu. Il l'a construit en partie par peur du déluge. Au cas où cela se produirait encore, je vais construire un tour qui arrivera jusqu'en haut. Mais Nimrod était, malgré le fait qu'il n'a pas vécu ça directement, parce que c'est son père qui a vécu cela, Nimrod a vécu comme une sorte de traumatisme. Ce n'est pas de lui, ce n'est pas sa vie. Mais la vie d'avant, la génération d'avant. La génération d'avant était traumatisée, tellement traumatisée à cause du déluge, à cause de tout ce qui s'est passé sur la terre, que Nimrod a construit un tour pour atteindre le ciel. Mais Nimrod construit, alors que lui, il n'a pas vécu cela, il le ressent à l'intérieur de lui. Ce qu'on peut dire, c'est que la peur aussi se transmet de génération en génération. Ce qu'on peut dire, c'est que le traumatisme peut se transmettre de génération en génération. Malgré le fait que tu n'as pas vécu, tu peux le ressentir à l'intérieur de toi. J'ai déjà rencontré des descendants des anabaptistes dans nos régions. Je sais ce que c'est. Que tu peux vraiment le ressentir quand tu parles avec eux. Que la génération d'avant a vécu quelque chose de traumatisant. Nimrod a construit un tour. Noé a construit l'arche. Noé a construit l'arche et il a vécu le traumatisme. Mais lui, quand il sort de l'arche, ce qu'il fait, c'est qu'il construit un autel. Nimrod construit un tour pour se préserver lui-même. C'est tellement difficile, je ne veux plus passer par là, je ne me laisserai plus avoir, je ne ferai plus tout ce qui a été vécu avant, ce ne sera pas pour moi. Moi, je construirai quelque chose. Moi, je ne me laisserai plus atteindre. Moi, ce ne sera plus, non, ce n'est pas pour moi, les problèmes, ce n'est pas pour moi, je ne me laisserai pas attendre. Je construirai et je ferai en sorte que Nimrod construit par peur. Peur de repasser par des difficultés. Alors que Noé construit par la foi pour sauver sa famille. Quand vous arrivez à un endroit, soit vous construisez par la foi, soit vous construisez par peur. Parce que le traumatisme produit cette chose dans nos vies. Chaque personne est appelée à construire quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu vas construire? Des fois, quand j'achète ou je fais les commissions, c'est plus fort que moi. Alors qu'on n'est que deux, elle rigole, ma femme. Alors qu'on n'est que deux, moi j'achète pour 10.
Famille nombreuse.
Famille nombreuse, exactement. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? C'est pas parce que je ne le sais pas, je sais. Je sais que c'est... Voilà. Mais je le fais tout le temps. Tout le temps, je le fais. C'est comme ça. Je ne sais pas ce que vous construisez. Mais la personne qui vit avec vous sait exactement ce que vous construisez. C'est exactement... Est-ce que vous construisez par la peur? Est-ce que vous construisez par la foi? Parce que si vous construisez par la foi influencera les générations futures. Si vous construisez parce que vous avez entendu de Dieu, la foi est contagieuse et elle fera que les générations futures seront bénies. Dieu bénira toujours ce que vous entreprenez, ce que vous construisez. Mais si vous ne construisez pas, Dieu ne bénira pas. Dieu pourra bénir seulement ce que vous construisez. Qu'est-ce que vous construisez? Noé a construit un autel. Noé est arrivé dans le panthéon de la foi parce que c'est quelqu'un qui est vraiment motivé par la foi, qui porte et incarne ce que c'est la foi. Noé construit l'arche. Il a vécu le traumatisme. Il pouvait aussi construire le tour. Mais ce qu'il a construit, c'est un autel. Et nous revenons maintenant au texte. Dieu l'appelle à sortir. Et le texte dit qu'il sorte. Et la première chose qu'il fait, il bâtit un autel. Vous savez, nous, c'est la dernière chose qu'on fait, c'est de prier. La dernière chose qu'on fait, c'est d'abord, voilà, nous allons voir si les médecins ont des solutions, nous allons voir si l'administration a une solution, nous allons voir si quelqu'un a une solution. Noé, il sort du traumatisme et la première chose qu'il fait, il construit un autel. Il va à l'autel. Et devant l'autel, il y a quelque chose qui se passe. Il sacrifie des animaux. Imaginez, tout a été disparu sur la terre, il reste quelque chose dans l'arche. Mais lui, ce qu'il fait, il sacrifie le peu qu'il a, le reste qu'il a. Il le sacrifie. Quand on parle de sacrifice, ce qu'on doit comprendre, c'est que un sacrifice, c'est ce que ça signifie pour nous. Qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'offrir cela? Lui, il a offert toute sa personne, tout ce qu'il a, il l'a offert. En fait, moi ça me parle parce que quand je loue le Seigneur, je ne peux pas dire ben, je vais donner en partie. Je ne peux pas dire je vais vivre en partie pour Dieu et en partie pour moi. Le sacrifice, ce n'est pas un sacrifice si ça ne correspond pas à la totalité de ce que tu donnes. Il faut que ça te coûte la totalité de ta personne. En fait, Jésus a expliqué par rapport à l'offrande. Tu peux donner énormément parce que tu as beaucoup. Mais tu peux donner un tout petit peu. Alors c'est tout ce qui te reste. Est-ce que tu pries un tout petit peu parce que c'est ce qui te reste? Est-ce que tu loues le Seigneur de cette manière-là? Est-ce que tu vis la relation avec Dieu dans cette optique-là? Si je te pose aujourd'hui, où est ton autel? Voilà ma question. Je viens devant vous. Où est ton autel? Je n'ai pas dit où est ton natel. Parce que je sais que le natel, vous savez où se trouve votre natel. Vous savez où se trouve votre porte-monnaie. Mais si aujourd'hui je vous pose la question, où est votre autel? Vous savez où est-ce que votre autel? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que vous le trouvez si facilement? Est-ce que vous le donnez entièrement? Noé arrive devant son autel avec cette conscience de quelqu'un qui a été racheté. Le traumatisme est venu, la terre a été bouleversée, Dieu a changé de plan, mais Noé arrive devant l'autel et voilà ce qu'il dit. Je sais que j'aurais dû me noyer aussi comme tout le monde, mais tu as eu pitié de moi. Tu m'as permis de réussir là où les autres ont échoué. Tu m'as laissé entrer là où les autres ont été exclus. Tu as permis d'aboutir là où d'autres ont échoué. survivre là où mes amis n'ont pas survécu. Même si j'ai fait la même chose qu'eux. J'ai vécu au même endroit. Je vais donc construire un autel et offrir un sacrifice, car je connais, je reconnais que j'aurais dû mourir aussi comme ceux qui étaient avec moi. J'offre ces animaux à ma place, un sacrifice à Dieu, tué, étendu sur l'autel, brûlé. Parce que tout ce qui est brûlé, on ne pourra plus le reprendre, c'est donné. C'est une question d'odeur. C'est brûler devant Dieu. Et à un moment donné, l'odeur arrive jusque dans le ciel. À un moment donné, l'odeur touche l'environnement de Dieu. À un moment donné, l'odeur arrive jusque dans les narines du Dieu très haut. Et il se passe quelque chose entre vous et votre Dieu. Dieu, et voilà ce que, je finis par là, je lis le texte. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et toutes les oiseaux purs, et il offrit un holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Ce qui m'a frappé, c'est que, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Mais dans ce texte, ce n'est pas la parole de Dieu. À cause du bon odeur qui arrive jusque dans le ciel, voilà ce qu'il dit. Et Dieu dit en son cœur. Dieu dit dans son cœur. Ce n'est pas encore une parole prononcée. En fait, le pouvoir que vous avez de faire changer d'avis Dieu est énorme. Vous avez le droit de tirer quelque chose de la parole de Dieu, mais vous avez le droit de faire changer d'avis votre Dieu. Quand l'Éternel sent quelque chose d'agréable de notre vie, nous pouvons tout demander. Nous pouvons faire en sorte que les choses changent. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut honorer l'Éternel dans ces lieux? Est-ce que tu veux honorer l'Éternel dans ta vie, dans notre église, là où le Seigneur nous a placés? Parce que si l'odeur, si tout est laissé sur son autel et que ça arrive jusqu'à lui, l'Éternel dira, je ne maudirai plus. Il fermera une histoire de ta vie et l'ouvrira une nouvelle histoire. Je ne maudirai plus. Amen. Père, merci pour cette parole. Je te demande maintenant que les cœurs puissent parler avec toi, que tu puisses construire quelque chose en nous. Seigneur, qu'on soit une odeur agréable devant toi, qui arrive jusque dans ton trône. Je bénis ton nom pour ce que tu as fait. Amen, amen. Amen.